L'heure des informations avec vous, Stanislas Vazak. Bonsoir.
Bonsoir. Donald Trump félicite le nouveau président mexicain Andrés Manuel López Obrador, mais le chef de l'État américain n'a pas du tout l'intention de renoncer à son projet de mur à la frontière mexicaine. Grégory Phillips nous appellera de Washington. La Belgique déjoue un projet d'attentat contre une réunion de la résistance iranienne en France. Deux suspects ont été interpellés. Nous ferons le point avec Pierre Benazé à Bruxelles. Angela Merkel négocie avec son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer sa survie politique. La chancelière allemande cherche à sauver sa coalition menacée par la crise migratoire. Nous rejoindrons à Berlin David Philippot. En France, le gouvernement prépare la réforme de la fonction publique. Quatrième chantier abordé aujourd'hui, la mobilité des fonctionnaires. Les explications de Marie Viennot dans ce journal. Donald Trump ne s'est pas contenté de prendre acte de l'élection du nouveau président mexicain. Le locataire de la Maison Blanche a tweeté ses félicitations à Andrés Manuel López Obrador, se disant prêt à travailler avec lui. C'est la première fois que la gauche mexicaine gagne l'élection présidentielle et le succès écrasant d'Andrés Manuel López Obrador risque de compliquer un peu plus la relation avec le puissant voisin américain. On retrouve à Washington notre correspondant Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, les tensions s'annoncent fortes entre l'Amérique de Trump et le Mexique d'Obrador, notamment autour des questions migratoires et commerciales.
Oui, c'est vrai que les dossiers sont nombreux. Il y a d'abord la question des migrants, évidemment, et la crise humanitaire qui se joue en ce moment à la frontière le long du Rio Grande. Le futur président du Mexique a fait savoir qu'il ne continuerait pas à faire, je cite, le sale boulot des États-Unis, à savoir l'arrestation de son côté de la frontière de migrants venus d'Amérique centrale. Il y a aussi évidemment le projet d'un mur entre les deux pays que Trump continue d'envisager, l'accord de libre-échange ALENA remis en cause par Washington, ou encore le profond déséquilibre commercial entre les deux pays. Il y a enfin ces tensions récurrentes liées aux déclarations du président américain à l'égard du peuple mexicain. Il les a multipliées ces deux dernières années, qualifiant parfois certains immigrants de criminels, de violeurs ou encore récemment d'animaux. Vous le voyez, il y a quand même d'énormes contentions entre les deux pays, mais en ce lendemain d'élection, le ton se fait un peu plus diplomatique. Donald Trump a dit qu'il avait hâte de travailler avec Obrador. Il y a tellement de choses à faire et qui seront bénéfiques pour les deux pays, écrit ce matin le président américain. Pendant sa campagne, Obrador, lui, avait fustigé la faiblesse du président sortant Enrique Peña Nieto vis-à-vis de Trump, mais celui qui vient d'être élu et qui veut transformer le Mexique devra aussi sans doute composer dans les prochains mois avec son tempétueux voisin du dessus.
Grégory Phillips en direct de Washington. Merci. Toujours aux États-Unis, le FBI annonce avoir déjoué un attentat djihadiste prévu le 4 juillet prochain, jour de la fête nationale américaine à Cleveland, dans l'Ohio. Un homme proche des réseaux d'Al-Qaïda a été interpellé. Il voulait tuer des militaires et leurs familles à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs. Cet homme né aux États-Unis avait confié ses projets terroristes à un agent infiltré du FBI. Autre attentat déjoué, cette fois en Europe. Le parquet fédéral belge a inculpé pour terrorisme deux personnes qui voulaient s'attaquer au congrès de l'opposition iranienne qui s'est tenu samedi dernier à Villepinte, près de Paris. On fait le point avec Pierre Benazé à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Pierre, cette enquête ne se limite pas à la Belgique puisque d'autres suspects ont été arrêtés en France et en Allemagne.
Non, effectivement. Alors si on prend d'abord effectivement le volet belge de l'enquête, il y a un couple d'origine iranienne et de nationalité belge qui a été placé sous mandat d'arrêt par un juge antiterroriste anversois. Ils sont inculpés de tentative d'assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste. Leur cible, c'était, oui, ce congrès des opposants iraniens, les Moudjahidines du peuple, samedi à Villepinte près de Paris, un congrès auquel assistaient 25 000 personnes, selon les informations du parquet fédéral de Belgique, lors de l'arrestation survenue à Bruxelles d'un homme de 37 ans et d'une femme de 33 ans. 500 grammes de l'explosif TATP ont été retrouvés dans leur véhicule, dans une petite trousse de toilette, de même qu'un détonateur. Et le service fédéral de déminage a fait sauter l'explosif. Alors oui, l'enquête ne s'arrête pas là. En France, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, était chargée de l'enquête. Et si deux des trois personnes interpellées en France ont été relâchées, un complice présumé des deux suspects de Bruxelles a été privé de liberté et placé en garde à vue. Et par ailleurs, en Allemagne, un diplomate iranien en poste en Autriche a été arrêté par la police fédérale.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Le Conseil national de la résistance iranienne accuse ce soir le régime des Mollahs à Téhéran d'avoir fomenté ce projet d'attentat à Villepinte. Le CNRI a été fondé par un ancien moudjahidine du peuple réfugié en France. La lutte contre le terrorisme est aussi au cœur de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Le président français est arrivé cet après-midi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour assister au 31e sommet de l'Union africaine. Mais il doit aussi et surtout rencontrer les dirigeants du G5 Sahel, cette force qui associe les militaires de 5 pays sahéliens dans la lutte contre les groupes djihadistes. Le G5 Sahel doit à terme prendre le relais de l'opération française Barkhane. En attendant, les attaques islamistes continuent au Mali. Elles ont fait ce week-end 7 morts et plusieurs blessés, dont 4 militaires français. On retrouve à Nouakchott notre envoyé spécial Franck Mathevon.
À peine arrivé sur le tarmac écrasé de chaleur de l'aéroport de Nouakchott, Emmanuel Macron revient sur les deux attaques terroristes des derniers jours au Mali, contre le G5 Sahel à Sévaré et contre les Français de Barkhane à Gao.
Je veux évidemment avoir une pensée pour nos amis maliens, suite aux attaques lâches, odieuses des terroristes au PC de Sévaré, puis à Gao. Plusieurs militaires français ont été blessés, mais ce sont des civils maliens, des civils africains, qui sont tués par le terrorisme et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons.
Le président français soutient ardemment la force conjointe G5 Sahel, plus de 4000 soldats de 5 pays unis pour lutter contre le terrorisme dans la région. Le président mauritanien Aziz apprécie.
Le président Emmanuel Macron a très tôt apporté son soutien au G5 Sahel. La France a déployé à nos côtés des efforts diplomatiques intenses.
Mais cette force G5 Sahel rencontre beaucoup de difficultés. Elle manque de financement. Ses soldats sont issus d'armées dont les niveaux de formation et d'équipement sont très disparate. Elle est pour l'instant inefficace, mais pour l'Elysée, l'essentiel est ailleurs. Les 5 pays qui la composent travaillent enfin ensemble.
Franck Mathevon, envoyé spécial de France Culture en Mauritanie. En Allemagne, Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer ont entamé aujourd'hui de nouvelles négociations pour sauver la coalition au pouvoir à Berlin. La chancelière refuse de céder aux exigences de son allié de la CSU, Seehofer qui réclame l'expulsion immédiate des migrants enregistrés dans un autre pays européen. Alors cela fait plusieurs semaines maintenant que les observateurs de la vie politique allemande spéculent sur la chute de la maison Merkel, qui se serait balayé par la crise migratoire. David de Filippo, vous êtes l'un de nos correspondants à Berlin. Quelles sont les chances de survie politique de la chancelière ?
Toutes les options sont sur la table, y compris la fin du gouvernement Merkel, tant les Bavarois semblent avoir perdu la boussole, malgré les sondages qui indiquent que ses coups de barre à l'extrême droite sont très mal perçus par son électorat. 2 électeurs conservateurs sur 3 se disent favorables à la ligne européenne de Merkel. Mais la CSU semble prise de panique, comme affolée par la montée de l'extrême droite, avec en perspective les élections régionales d'octobre prochain en Bavière. Une rupture entre les deux partis frères signifierait plus de majorité au Bundestag pour Merkel, mais ce serait aussi la clarification d'une querelle intestine. La CSU n'a jamais digéré la décision de la chancelière de laisser les frontières ouvertes aux réfugiés à l'été 2015. Mais attention, malgré l'exaspération réciproque, les derniers signaux envoyés par les deux camps tendent vers l'apaisement. Dans cette hypothèse, le ministre de l'Intérieur, fragilisé, décrédibilisé, pourrait être sacrifié sur l'autel de la réconciliation. Horst Seehofer, 69 ans mercredi et surnommé ici Crazy Horst, pourrait tout aussi bien être remplacé par un autre CSU et le gouvernement allemand poursuivrait sa route sans lui.
David Philippot depuis Berlin, Angela Merkel qui doit prononcer demain devant le Bundestag un discours de politique générale à l'occasion du débat budgétaire. En France, après la SNCF, le gouvernement compte bien réformer en profondeur la fonction publique. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt a lancé ce matin le 4e chantier de cette réforme. Il est question cette fois de mobilité et de transition professionnelle. Les 3 premiers chantiers concernaient la rémunération, la carrière et le recrutement des fonctionnaires. Marie Viennot, bonsoir. Alors l'objectif du gouvernement est d'aboutir à un projet de loi début 2019.
Reclassement, réorientation professionnelle, mobilité entre administrations et vers le privé. Voilà les têtes de chapitre de la concertation telle qu'imaginée par le ministère de la fonction publique. Aucune annonce n'a été faite, mais il y a eu 3 groupes de travail lancés. L'un sur la formation qui démarrera cette semaine, un autre en septembre sur les mécanismes favorisant la mobilité et les reconversions dans la fonction publique, et le troisième sur les dispositifs spécifiques et les aides au départ dans le secteur privé. C'est ce groupe de travail qui inquiète le plus les syndicats, car c'est celui qui envisage réellement des choses nouvelles. Jusqu'à maintenant, les fonctionnaires peuvent déjà tout à fait quitter le public. Il leur suffit de prévenir l'administration qui saisit une commission de déontologie, laquelle vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts potentiel. Depuis 2009 même, ils peuvent toucher un chèque pour leur départ ou s'ils créent une entreprise. Mais ces dispositifs ont été peu utilisés car cette prime est plutôt faible et le fonctionnaire qui part n'a pas droit au chômage. Le but de ce troisième groupe de travail sera donc de trouver les bonnes incitations et l'outil juridique qui permettrait de faire à terme des plans de départ volontaires dans le public. Ce cap a été fixé par le Premier ministre en février dernier. Ce sera un nouveau marqueur de la volonté du gouvernement d'amoindrir peu à peu les différences entre emploi public et emploi privé.
Marie Viennot du service économie de France Culture. 24 heures après son évasion, Redouane Faïd reste introuvable et sa cavale alimente la polémique sur les conditions de sa détention. Le braqueur s'est enfui hier matin de la prison de Réau en Seine-et-Marne à bord d'un hélicoptère détourné par des complices. Les syndicats pénitentiaires affirment qu'il n'aurait jamais dû être incarcéré à Réau. Un discours critique que l'on retrouve aussi, mais dans une moindre mesure, chez les directeurs de prison. Écoutez à ce sujet Damien Pellen, premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires CFDT.
La difficulté des nouveaux établissements, c'est que la plupart d'entre eux, et c'est le cas de Réau, mais d'autres établissements accueillent une typologie de public qui est complètement diversifiée, avec des seuils de dangerosité plus ou moins importants.
C'est-à-dire qu'il faudrait mettre les gens dans des endroits différents selon leur dangerosité ?
Les mettre dans des endroits différents, mais surtout ne pas concentrer à la fois des détenus courte peine ou moyenne peine avec des détenus longue peine. Qu'il n'y ait pas des infrastructures communes entre des détenus qui sont dans un quartier centre de détention, des détenus qui sont dans un quartier maison centrale. C'est un mélange de population pénale, carcérale, qui ne peut avoir le même degré de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que la prise en charge et ce qu'on propose à des détenus qui sont écroués dans un quartier maison centrale, dans une maison centrale, ne vont pas être les mêmes que ce qu'on peut proposer à des détenus qui sont dans un centre de détention. Ce que les directeurs rencontrent comme difficulté de gestion et d'accompagnement des personnes détenues, ce sont des profils pénaux différents et qui nécessitent des prises en charge différentes. Or, quand on a dans une même structure tous ces profils différents, on ne peut pas répondre de manière efficiente aux besoins des personnes détenues. Je ne dirais pas que le mélange de public favorise les évasions. Par contre, un mélange extrêmement différent vient mettre à mal toute la prise en charge, que ce soit sécuritaire ou d'accompagnement, qu'on peut avoir dans une maison centrale ou dans un centre de détention.
Des propos recueillis par Antoine Marette, la ministre de la Justice. Nicole Belloubet avait évoqué ce matin sur Europe 1 une éventuelle défaillance dans la surveillance de Redouane Faïd. Madame Belloubet est complètement à côté de la plaque, lui répond ce soir Nicolas Dupont-Aignan. Le chef de Debout la France réclame, je cite, des sanctions contre les responsables. C'est un grand jour pour les volcans d'Auvergne. La chaîne des Puys est officiellement inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du 44e site français à rejoindre cette prestigieuse liste de l'Agence des Nations Unies. Mais c'est le 4e seulement qui relève du patrimoine naturel. Les 3 autres étant les Pitons et Cirques de la Réunion, les Lagons de Nouvelle-Calédonie et les Calanques de Piana en Corse. Cela faisait 11 ans que l'Auvergne attendait cette inscription, Juliette Micheneau.
Et il aura fallu attendre encore jusqu'à midi moins le quart ce lundi.
Dernier site sur la liste, la France. Haut lieu tectonique, chaîne des Puys, faille de Limagne.
Le dossier Puy d'Aumois est enfin sur la table, commenté par l'UICN, la fameuse ONG, qui a déjà donné son feu vert à l'inscription il y a un mois. L'expert rappelle que le Puy d'Aume en est à sa 3e tentative, qu'il y a eu énormément de travail pour revoir cette candidature et mettre en avant sa spécificité, à savoir que le site illustre de manière unique la tectonique des plaques. L'UICN, particulièrement soucieuse de l'environnement, rappelle aussi que le département s'est engagé sur la fermeture à terme des carrières de pouzzolane qui sont encore exploitées sur le site. Et en moins d'un quart d'heure, la décision tombe sans appel des autres pays membres du comité.
Je déclare donc le projet de décision 42,8B10 adopté.
Félicitations pour la France.
Et c'est le président du département du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Goudbel, qui aura le dernier mot.
Votre assemblée a décidé d'inscrire aujourd'hui un nouveau site tectonique. C'est une catégorie peu présente sur la liste, car sans doute difficile à appréhender. Or, il s'agit pourtant de phénomènes qui façonnent le visage de notre planète. Nous sommes évidemment conscients du devoir qui nous est fait maintenant pour pouvoir continuer, comme nous l'avons fait avec le plan de gestion que nous avons engagé, à assurer l'intégrité de ce bien. Merci à toutes et à tous.
Voilà pour ce reportage de Juliette Micheneau de France Bleu, Pays d'Auvergne. Un mot de la météo des prochaines heures. Les orages reprennent ce soir dans l'ouest avec 6 départements en vigilance orange. Les cumuls de pluie seront importants sur le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Ailleurs, le temps restera beau et très chaud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.